toda palabra, con toda sonrisa.
Bonjour et bienvenue à cette première émission à l'air libre de la rentrée, enregistrée aux correspondances de Manosque à l'occasion du 10e anniversaire de ce festival. J'y ai retrouvé Nathalie Kuperman sur un balcon donnant sur la cour intérieure de l'hôtel Volant, un nouveau lieu culturel de la ville, destiné à accueillir toute l'année des artistes et auteurs en résidence. Un lieu d'exposition, un café associatif, le bureau du festival des correspondances et les éditions Le Bec en l'air, d'autres projets encore à venir. Cet hôtel Vaudan s'ouvre au moment du festival à des lectures, des projections de films en lien avec la littérature, des diffusions de rencontres littéraires enregistrées ou de programmes radiophoniques. Nathalie Kuperman, donc, est avec moi. Elle a d'abord été connue comme auteure jeunesse. Elle travaille d'ailleurs elle-même dans la presse jeunesse. Auteure de livres où elle est seule à écrire, comme par exemple Caroline et Cornelia, L'heure bleue, Cinq sorcières, Je suis méchant, d'autres livres encore, parus la plupart du temps aux éditions L'École des loisirs. Mais des livres aussi où elle est en collaboration avec des illustrateurs ou illustratrices, comme avec Soledad Bravi pour Mensonges et vérités, paru à l'École des loisirs, avec Audrey Poussier comme Carlotta et les monstres, à l'École des loisirs toujours, ou encore Kitty Krauter pour Pas un mot, paru encore une fois à l'École des loisirs. Elle est également, depuis 1999, même auteur de littérature générale, avec un premier livre paru au Serpent à plumes, Le Contretemps, qu'on a un petit peu de mal à trouver aujourd'hui, mais qui est encore en librairie parfois ou en bibliothèque, que vous pouvez lire. Et puis d'autres livres parus ensuite aux éditions Gallimard, comme Rue Jean Dolan, qui racontait le parcours d'une femme dans une ville, attendant, allant visiter son mari en prison, et voilà tout le parcours qu'elle pouvait faire entre l'extérieur et l'intérieur, comme ça, dans ce livre, Rue Jean Dolan. D'autres romans encore, Tu me trouves comment, paru chez Gallimard en 2001. J'ai renvoyé Martha, paru en 2005, toujours chez Gallimard, réédité ensuite dans la collection Folio. Et puis très récemment, deux livres qui paraissent cette rentrée-ci en même temps. Petit déjeuner avec Mick Jagger, dont on va parler pendant cette rencontre, qui vient de sortir donc aux éditions de L'Olivier. Et puis un recueil de nouvelles, Petit éloge de la haine, donc paru également cette rentrée, septembre 2008, qui vient de sortir aux éditions Folio, dans une collection à bon marché, à 2 €, directement donc en édition de poche, vous pourrez trouver ce texte. Voilà, nous sommes avec Nathalie Kuperman pour parler de ses livres. Il faut signaler aussi qu'elle a écrit plusieurs fictions radiophoniques depuis 2001. Donc nous sommes dans ce lieu consacré pour les correspondances de Manosque à l'écoute de textes lus par les auteurs, mais aussi d'émissions ou de textes enregistrés pour la radio. Nous sommes dans un lieu adapté à l'écoute avec Nathalie Kuperman pendant cette heure.
La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Nathalie Kuperman, je suis ravi d'être avec toi sur ce balcon de l'hôtel Volant à Manosque, où nous sommes pour les correspondances de Manosque. Thématique sur l'écriture en prison, oui. Avec beaucoup de monde.
Et donc qui ne me concernait pas vraiment.
Voilà,
tout
qui
ne
concernait pas vraiment tout à fait.
J'en avais l'impression.
Et donc je suis bien content d'avoir l'occasion de te retrouver dans ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Manosque, qu'on entend un tout petit peu bruissonnant, puisqu'on sort d'une rencontre lecture avec Patrice Pluyette. D'accord. On entend encore un petit peu les gens. Et voilà, toi tu es là pour parler de ton dernier livre à Manosque, faire des rencontres avec différentes personnes, pour Petit déjeuner avec Mick Jagger, qui vient de sortir aux éditions de l'Olivier, dans une collection. J'aimerais bien que tu me dises que ça t'évoque, une collection qui s'appelle Figure Libre.
Oui.
Parce que, voilà, comme on est dans une émission qui s'appelle À l'air livreux, mais bon.
Libre, livre, voilà. Bah, en fait, cette collection, c'est effectivement le premier livre d'une collection que lance donc Olivier Cohen, l'éditeur des éditions d'Olivier. Et c'est une histoire assez rigolote, puisque je me suis trouvée avec lui dans un déjeuner, plusieurs autres personnes, et il dit comme ça, je vais lancer une collection où je vais demander à des écrivains que j'aime bien de parler de leurs héros. Et comme il ne s'adressait pas à moi particulièrement, je me suis sentie très libre, justement, et j'ai répondu, oh, mais moi, je sais, je raconterai le petit déjeuner que j'ai pris avec Mick Jagger. Il m'a regardé un peu surpris et il m'a dit ah bon? J'ai dit mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais pris mon petit déjeuner avec Mick Jagger. Il m'a dit chiche, lancez-vous, voilà, écrivez.
Donc du coup tu as inauguré la collection?
J'ai inauguré la collection de cette façon-là, c'est-à-dire que je suis rentrée le soir chez moi et j'ai commencé à écrire beaucoup. J'écris rarement beaucoup, enfin plusieurs heures de suite, et là je sais pas pourquoi quelque chose s'est débloqué. Jamais j'aurais commencé un livre en racontant effectivement un petit déjeuner avec Mick Jagger, sûrement pas. Et donc ça a été une espèce de jeu comme ça que j'ai saisi, et voilà. Et ça a donné.
Mais on a l'impression que c'était là depuis longtemps. Si ça sort comme ça aussi facilement, si spontanément tu parles de ce petit déjeuner avec Mick Jagger.
En fait, sans doute, c'est-à-dire que j'ai tout le livre s'est un tout petit peu écrit à l'aune de ce qui s'était passé avec Olivier Cohen, à savoir que j'ai vraiment laissé les choses venir, les choses se faire. Que, au fur et à mesure de l'écriture du livre, je m'étonnais vraiment à chaque instant d'aborder telle ou telle chose, et que le jeu c'était de tout laisser venir justement, et d'essayer d'être, comme je l'avais peut-être jamais été, enfin à ce point pour les autres livres, le plus lâché possible, tout en retenant évidemment les choses par l'écriture, mais en tout cas les thèmes abordés, les idées qui me venaient comme ça, j'essayais comme ça de les accueillir dans ce livre qui est un objet un petit peu bizarre.
Les accueillir un peu comme ce fantasme. Oui. Presque ce fantasme absolu qu'est Mick Jagger.
Oui. Alors, c'est vrai que dans ce livre, il y a 9 petits déjeuners, 9 idées de la rencontre, 9. Mais le seul vrai petit déjeuner qui a eu lieu, en vrai, dans ma vie, c'est le premier, à savoir que réellement, j'ai préparé un jour un petit déjeuner pour Mick Jagger. Et ce qui m'a intéressée dans cette expérience, j'avais en effet 13 ans à peu près, c'est que quand il n'est pas venu, et pour cause, puisque je pense pas qu'il était vraiment au courant que je l'attendais.
Sinon, il serait peut-être venu.
Mais... je pense pas non plus, mais peu importe. J'ai été réellement déçue. C'est-à-dire que j'ai ressenti presque physiquement une déception, une tristesse. Et c'était cet aspect-là que je trouvais intéressant. Ouais. Sur cet aspect-là que je trouvais intéressant de revenir.
Sur ce rêve, finalement. D'adolescence, un instant de rêve, enfin bon, on voit bien que ça a duré, il y a une période d'adolescence où on rêve comme ça à de grandes choses, mais là c'était un instant précis, un rêve, un fantasme précis, c'est arrivé qui provoque tout de suite la déception.
Bah, c'est-à-dire que c'est un rêve qui, au départ, effectivement, commence comme une plaisanterie et puis s'installe comme une fixation et puis devient quasi dangereux, si on peut dire qu'un rêve est dangereux. C'est-à-dire que ça prend une tournure chez cette jeune fille qui se retourne un petit peu contre elle, finalement. Enfin, c'est... Et puis en même temps, c'est vrai que c'est sa liberté, c'est sa façon d'échapper à une situation qui est décrite comme un petit peu terrible, puisque sa mère, effectivement, est souvent à l'hôpital psychiatrique et son père parti à Berlin. Ouais. Donc une enfant aussi qui se retrouve seule et livrée à elle-même et qui occupe l'espace de ce fameux Mick Jagger Voilà, sans les visites de Mick Jagger, ce serait d'un vide total.
Terrifiant.
Terrifiant.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à d'autres livres où tu as déjà évoqué l'adolescence et cet état triste, voire terrifiant, mais peut-être pas du tout de la même manière? Qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est cette, euh, cet espace de liberté que d'un seul coup tu t'es donné, de te lâcher
C'est-à-dire que c'est aussi dans ce livre, c'est vrai qu'on part de ce personnage, aussi une grande, grande liberté que je me suis octroyée, c'est d'appeler mon personnage Nathalie Kuperman, ce qui était quand même... alors là, j'ai hésité, c'est sorti comme ça, donc comme je te le disais tout à l'heure, j'ai essayé de prendre tout ce qui venait. Donc je devais garder ce nom, mais c'était quand même un point d'interrogation, qu'est-ce que j'en fais d'arriver à... C'est vrai qu'il y a quelques années, si j'en avais eu l'idée, j'aurais sûrement changé Nathalie Kuperman en Sophie Marshall ou en je ne sais quel nom, parce que j'aurais peut-être pas su quoi faire de ça. Là, j'ai essayé de traiter donc Nathalie Kuperman en personnage, ce qui a vraiment fait venir des choses qui ne seraient sûrement pas venues si le personnage était appelé autrement. Et donc, c'est aussi un jeu que j'ai essayé vraiment de maîtriser entre, effectivement, le souvenir, la fiction, la réalité. Et voilà, et j'ai l'impression d'avoir écrit ce livre sur un fil, comme ça. Et c'était peut-être la nouveauté, donc l'étonnement. J'ai été étonnée. Je, à la fois, c'est un petit peu ce que j'expliquais, j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que de ne pas maîtriser et de tout maîtriser, d'être dans un double mouvement de liberté et de tenir les rênes. Je sais pas, je suis peut-être pas très très claire.
Je crois que si. Déjà, on peut s'en rendre compte parce qu'effectivement.
Ce que j'aurais peut-être pas fait il y a quelques années, parce que j'en étais moins capable. Le travail aussi aide à ça finalement. Le travail aide à pouvoir se lâcher entre guillemets correctement.
D'accepter de se lâcher.
D'accepter de se lâcher et d'avoir quand même pour récupérer tout ce qui vient comme ça, l'outil de l'écriture et de le maîtriser mieux. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me serais peut-être pas autorisée ça. Parce que j'aurais eu l'impression que l'écriture ne pouvait pas suivre le projet. Là, c'était un petit peu ambitieux, mais je me suis dit, en principe, tu devrais être capable d'y arriver. Un peu plus.
Un peu plus. La retenue, elle est aussi dans la longueur du livre. C'est un livre court.
Oui.
Tes livres ne sont pas très longs en général, mais un petit peu quand même plus court, plus tenu.
Plus dense peut-être.
Plus dense. Ça jouait aussi, ça, dans...
C'était pas prévu. C'est-à-dire que... il y avait effectivement... au départ, Olivier Cohen m'avait dit qu'il fallait justement pas que ce soit un roman fleuve, puisqu'il y avait un petit peu un nombre de signes... maximum, et à un moment donné je lui dis, oh là là, mais je crois que je suis partie pour écrire quelque chose de très long, donc cette contrainte des signes m'ennuie, et il me dit, mais c'est pas grave, allez-y, voilà, ça, on verra bien. Et finalement, ça s'est arrêté, justement, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, c'est-à-dire que avec la dernière phrase du livre, je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument pas aller plus loin.
On va la lire.
Je t'en prie.
Ah, mais non, moi, ça ne marche pas. Si je la lis, ça ne peut pas marcher.
Je vais lire le dernier paragraphe. Je voudrais m'appeler Rose Jagger pour confondre le rêve de mon grand-père et le mien, être à la fois sa sœur morte à Auschwitz et ta femme, mais je m'appelle Nathalie Kuperman et je suis tellement fatiguée. Et quand j'ai vu que j'écrivais et je suis tellement fatiguée, ce qui était vrai d'ailleurs, parce qu'il était tard, parce que vraiment, je collais aussi à ma réalité physique, je me suis dit, mais alors zut, c'est terminé. Et j'étais déçue parce que j'étais dans un tel mouvement, j'étais déçue, mais puisque c'était comme ça que les choses devaient s'achever, je pensais que tout ce que j'aurais rajouté après aurait desservi le propos.
Oui, puisque c'est un livre de la déception.
C'est vraiment pour moi, c'est la première fois que j'ai à ce point l'impression d'une écriture comme expérience aussi physique, parce que ça m'a réellement épuisé de l'écrire en plus.
Oui, la fatigue, elle était réelle.
Elle était réelle. Oui.
À l'air livre, Pascal Jourdana, Nathalie Kuperman.
Alors, on va peut-être revenir à ça, mais en même temps, je l'ai découvert hier dans les librairies de Manosque. Tu publies un petit éloge de la haine.
Ouais.
Ce sont des textes inédits. Enfin, il y en a deux, trois, c'est un recueil de nouvelles, deux, trois qui sont parus en nouvelles. Et c'est très étonnant, d'ailleurs, tu t'en expliques, sans te justifier, mais tu t'en expliques un petit peu. C'est un titre qu'on n'attend pas du tout de ta part, Petit éloge de la haine, et tu te demandes toi-même, tu dis toi-même que c'est impossible d'écrire un éloge de la haine. Quelle horreur. Donc ça, c'était vraiment très, très étonnant. C'est dans la collection Folio Gallimard, les petits folios qui sont à 2 euros... qui sont
oui, c'est toute une série,
petits éloges. Et donc il y a une succession, enfin une dizaine même pas, de courts récits qui tournent autour de cette idée d'éloge de la haine. Mais c'est pas exactement ça non plus. Enfin, non. C'est difficile de.
C'est pas vraiment un éloge de la haine. C'est plutôt des nouvelles, effectivement, autour de ce sentiment. C'est vrai que, comme je l'explique, j'ai fait un prologue en effet parce que je me sentais sans doute obligée de me justifier.
On a l'impression que ça
mais rigolant. Hein,
voilà, le prologue est quand même. Mais on a l'impression que le mouvement est le même qu'avec Figure Libre, c'est-à-dire que tu t'es d'une certaine façon donné l'autorisation de faire quelque chose que. Tu n'avais pas anticipé, tu n'avais pas programmé.
Là encore, et c'est ça qui est étonnant, d'avoir deux livres finalement qui sortent au même moment, mais qui partent effectivement d'une demande des éditeurs, parce qu'en général, non, j'écris le livre et ensuite je le propose. Et là, c'était en effet Gallimard qui me demandait d'écrire un petit éloge. Et c'est vrai que j'étais à ce moment-là en train de réfléchir à une façon d'écrire la haine. Et donc, ça tombait, évidemment, leur demande de tomber très bien. Et je me suis lancée dans ce petit éloge. Peut-être que ce qui m'a le plus intéressée, le point commun, parce que c'est vrai que les histoires sont quand même très différentes et que, voilà, au niveau des rapports entre les gens, mais le point commun, encore plus que la haine, peut-être, c'est ce moment où le sentiment bascule. C'est-à-dire essayer d'attraper ce petit grain de sable qui fait que les choses peuvent plus être comme avant. Et là, en l'occurrence, effectivement, ça bascule du côté de la haine.
Oui.
Mais voilà.
Est-ce que l'écriture s'est faite à peu près en même temps que Petit Déjeuner avec Mick Jagger? Enfin, est-ce que c'est
non,
proche
dans... Avant, finalement. Avant, puisque Petit Déjeuner avec Mick Jagger, c'est le dernier texte que j'ai écrit, parce que je l'ai écrit assez rapidement. Je l'ai écrit l'été dernier, tandis que Petit Éloge de la haine, c'était un petit peu dans l'année. Et puis, je ne l'ai pas du tout écrit à la suite. Ce sont des nouvelles, et effectivement, l'écriture de plusieurs nouvelles appelle pas les mêmes le même temps.
Est-ce que tu considères que c'était un travail de contrainte, puisque justement c'est une commande de la part d'éditeurs, enfin une commande que tu as en même temps provoquée de façon spontanée, mais est-ce que cette idée t'a effleuré de travailler sous contrainte et alors avec ce qu'on connaît de la contrainte productrice d'œuvres artistiques qui donnent aussi de la liberté.
Ça, j'en ai une grande habitude avec les textes que j'écris pour les enfants, finalement, puisque ça fait quand même plus de 15 ans que j'écris beaucoup d'histoires, par exemple dans la presse enfantine. Et alors là, effectivement, si on parle de contraintes, c'est vraiment au nombre de signes près, des thèmes, vraiment beaucoup de choses imposées. Donc ça, j'ai l'habitude de ça. Ensuite, effectivement, j'ai écrit des romans à l'école des loisirs, c'est beaucoup moins contraignant, si je puis dire. C'est marrant parce qu'en même temps, la contrainte et contraignant, c'est pas la même chose dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on peut se sentir très libre, alors même qu'on a une contrainte qu'on écrit. Et ça peut même être un moteur, la contrainte, bien sûr. Donc non, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, en fait, d'écrire avec une commande ou une attente de l'éditeur sur quelque chose qu'il m'avait demandé. Non, ça n'a pas changé grand-chose.
Non. Même si c'est de la littérature pour adultes ou dite pour adultes, ça n'a pas...
Non, parce que j'étais, pour le petit éloge, j'étais libre de mon sujet. C'est pas Gallimard qui m'a demandé d'écrire sur la haine. Quant à Petit Déjeuner avec Mick Jagger, J'étais complètement libre, là encore, du sujet. D'ailleurs, je pense que ça ne s'appelle pas figure libre non plus complètement par hasard. C'est-à-dire, je pense que c'est un point de départ.
C'est une contrainte où on te laisse de la liberté, justement.
Oui, la contrainte,
c'est d'être le plus libre possible.
Oui, vraiment. Là, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, non.
Alors, ce petit éloge de la haine, c'est surprenant, je le disais, pour le titre, mais aussi par rapport à tes personnages féminins, la plupart du temps, qui sont, tu le dis toi-même, ou tu l'acceptes, qui ont un côté nunuche, qui ont un côté, qu'elles soient femmes ou adolescentes, un côté, justement, d'absence de révolte, un côté un petit peu rangé. Alors, évidemment, il se passe des choses à chaque fois, mais c'est d'autant plus surprenant, ce surgissement du mot « haine », je trouve, dans un titre, et dans ce basculement. Parce que peut-être que le basculement, il se déroule ailleurs aussi dans ton écriture aujourd'hui. Est-ce que, pour toi, il y a quelque chose qui est en train de changer?
Oui, j'espère d'ailleurs, parce que j'espère que quelque chose est en train de changer. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai l'impression que, sans renier du tout les autres textes, parce que c'est pas, il n'y a pas une histoire de valeur là-dedans, mais que c'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est depuis que j'ai peut-être pris conscience de ça que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. mais j'ai l'impression qu'en effet, je pourrais plus écrire. C'est le travail aussi, le travail de. Moi, j'écris beaucoup de. Je commence beaucoup de romans que j'arrête parce que justement, même si j'en ai écrit quand même pas mal de signes de page, je sais pas comment on compte, Il faut maintenant, pour que je puisse être intéressée d'aller jusqu'au bout, que je sente une nouveauté. Si je ne la sens pas sous ma plume, si j'ai l'impression qu'il y a une répétition, même si l'histoire change, même si ça ne peut plus m'intéresser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a pas des choses que je découvre au fur et à mesure, ça ne m'intéresse pas d'écrire. Ce qui m'inquiète parfois, parce que je me dis, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. C'est-à-dire que jamais, d'ailleurs, je me dis que je vais sortir un livre à telle date. D'ailleurs, je suis très, très inégale entre le premier et le deuxième 7 ans, le deuxième, le troisième un an, ensuite je crois 4 ans, là 3 ans, peut-être le prochain sera dans 10 ans. Non, honnêtement, il faut que les choses soient surprenantes pour moi. Et pour être surprise, je crois que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup travailler.
Ah, c'est paradoxal.
De travailler, pas forcément pour... De travailler tout court, enfin, de travailler l'écriture, j'entends, évidemment. C'est paradoxal, je sais pas. C'est-à-dire que là, je me lance un peu dans le vide en me disant tout ça. Il faudrait que je n'aie pas vraiment théorisé la chose. Mais d'ailleurs, j'y penserai. Mais je le sens comme ça. Travailler, c'est aussi se laisser la possibilité, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écriture de Petit Déjeuner avec Mick Jagger, la possibilité de se faire confiance. Et pour se faire confiance, il faut sentir quand même qu'il y a des choses qui ont évolué en soi, enfin dans son écriture, et ça permet à ce moment-là de se lancer, de se lâcher, comme de toute façon je ne me lâcherai plus jamais, et heureusement, comme je me suis lâchée dans Petit Déjeuner avec Mick Jagger, il faut que ce soit une autre forme de lâchage. Oui. Mais je n'ai pas encore peut-être l'écriture qui va recevoir ça. Enfin, je suis compliquée de ce que je raconte, mais c'est assez intéressant d'ailleurs de... J'ai jamais une histoire à raconter. Jamais.
Pas
du tout. C'est-à-dire que.
Et
ça m'est déjà.
Ça m'est déjà
arrivé d'avoir une histoire à raconter en me disant que ça allait être très intéressant. Et ça ne tient pas. Parce que justement, je sais ce que je vais raconter ou j'en ai une idée. Et du coup, il faut aussi que je sois surprise par l'histoire qui va se faire. Mais je dirais presque que quand j'écris pour les enfants, alors qu'on a l'impression que l'écriture pour enfants, c'est on sait que c'est construit, ce qui c'est construit d'ailleurs. C'est pas parce qu'on se lâche qu'on se lance et qu'on ne sait pas où on va qu'on ne construit pas. Bien évidemment, je pense que la construction de toute façon précède l'histoire. Elle est là et puis on la découvre en mettant comme ça une histoire sur cette charpente qu'on porte en soi. Et pour l'écriture pour enfants, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je pars Je pars d'une idée, pas d'un souvenir, d'une sensation peut-être de l'enfance, d'un titre, d'un mot, d'une chose que j'observe. Et c'est tout ce que je veux avoir. Si déjà, effectivement, je commence à me dire, tiens, ben voilà, la sorcière rencontrerait bien telle et puis, ben non, ça ne m'intéresse plus.
Ouais. Parce que tu connais l'histoire.
Et que je suis comme les enfants, finalement. J'ai envie de découvrir au fur et à mesure. Et je sais que ça fait un peu faux naïf de dire ça. C'est pas, évidemment que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais réellement, et je pense qu'on peut écrire une histoire pour enfants très structurée, très, sans connaître la fin et sans savoir même vers quoi on va. Oui. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'écriture pour adultes et l'écriture pour enfants.
Ce qui est assez frappant aussi, parce qu'on peut imaginer justement que l'écriture pour enfants t'apporterait cette espèce de régularité. Tout à l'heure, tu disais que c'était très irrégulier, 1 an, 7 ans, 3 ans. L'écriture pour enfants, tu as des commandes, tu as des contraintes,
donc
tu as de la régularité.
Oui, c'est peut-être un peu plus régulier, oui, c'est vrai, c'est plus régulier quand même.
Et on pourrait imaginer que dans la forme aussi, ce soit quelque chose de plus sécurisant pour toi, du coup.
Mais pas forcément, pas forcément. Mais justement, là, je pense que j'ai, au point où j'en suis là tout de suite, je pense que j'ai d'ailleurs envie d'écrire une histoire pour enfants. Mais voilà comment ça se passe, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un titre qui m'obsède depuis un certain temps, et ça s'appelle, c'est pas écrit du tout, ça s'appelle l'ogre qui ne finissait pas ses phrases. J'ai envie d'écrire cette histoire-là, mais je commence et je m'aperçois que non, en fait, ça va pas m'emmener dans l'histoire de l'ogre qui ne finissait pas ses phrases. Donc j'écris une histoire qui n'est pas, correspond pas au titre finalement. Donc j'arrête tout et j'attends d'avoir que l'histoire finalement me tombe un peu tout cuit dans le bec, et je sens que là je vais avoir besoin effectivement de revenir à l'écriture pour d'écrire en tout cas en direction des enfants, peut-être pour retrouver un souffle pour mais très souvent je fais les deux en même temps. J'aime beaucoup ça d'ailleurs, de passer de l'un à l'autre et en avoir assez de travailler sur mon roman et faire le deuxième chapitre de tel roman pour enfants, ados ou je ne sais. C'est toujours de l'écriture et c'est toujours un mouvement et c'est voilà.
Pour petit déjeuner avec Mick Jagger, c'est venu spontanément. Tu as donné ce titre.
Oui, en fait.
Et c'est parti de là. C'est parti du titre. Tu avais aucune idée avant. Ça a surgi comme
ça. Si j'avais l'idée quand même de. Ce que j'ai raconté finalement à Olivier Cohen, de ce petit, quand je lui ai raconté en rigolant que j'avais pris un petit déjeuner avec Mick Jagger, je me suis quand même souvenue effectivement de ce mini délire quand j'avais 13 ans, d'avoir emmené effectivement une amie dans le délire, une amie qui avait dormi chez moi, c'est vrai, et ma mère n'était pas là, c'est vrai, tout ça est vrai, et d'avoir préparé le petit déjeuner à Mick Jagger, donc pour Mick Jagger. Donc j'avais quand même une idée de départ, voilà, mais c'était vraiment tout, et... Et puis ensuite, il faut décliner. Ça, j'aime bien cette idée aussi de prendre un petit déjeuner. D'accord, ça c'est vrai, ça c'est vraiment produit. Puis d'en faire un deuxième, puis un troisième. Voilà. Et j'étais complètement dans le vide. Je me disais, mais combien il va y en avoir et qu'est-ce qui va se passer au prochain? Et voilà, et donc c'était un jeu douloureux parfois, parce que c'est vrai que dans le roman il y a quand même des aspects aussi de l'enfance qui reviennent à la surface et que là encore je n'avais pas prévu et
qui t'ont submergé parfois.
Oui, vraiment, mais que j'ai laissé venir là encore, qui m'ont submergé et qu'il a fallu que je traite ensuite forcément puisqu'ils étaient là. Et j'avoue que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fatigue physique aussi en écrivant le livre, c'est que réellement je me suis pas ménagée, enfin d'une certaine façon. Oui. Et puis c'était aussi une manière de me rendre compte quand même qu'il y avait des choses de l'enfance qui m'avaient auxquelles je n'avais mais jamais repensé. Et c'est étonnant ça aussi de voir surgir. Bon, cette histoire, effectivement, de sale bonhomme que le personnage rencontre, qui est quand même une forme de viol, si c'est pas bon. Et ben oui, c'est une histoire qui m'est arrivée et que je n'ai jamais, mais j'ai jamais même pensé à raconter, non pas par pudeur, mais parce que voilà, bon, c'était pas anodin, parce que je sais bien que c'est pas anodin. pas oublié non plus, mais quelque chose de pas très important. Ouais. Et c'est vraiment en l'écrivant que je me suis dit, oh, ça m'a, oui, là j'ai eu une espèce de choc. C'est ça qui est étonnant aussi dans l'écriture, c'est que ça appelle, ça faisait des appels d'air comme ça, des appels d'émotion. On sait, mais on ne sait pas. Et avec l'écriture, on sait un peu plus, mais c'est pas parce qu'on écrit d'ailleurs qu'on va mieux, forcément. Enfin, ou que la chose est résolue, bien sûr, ce serait trop facile.
Oui, là, ça réveille des voilà. choses aussi. Donc,
À l'air livre, Pascal Jourdana, Nathalie Kuperman.
Mick Jagger, il est présent sous forme de poster.
Oui, oui, d'image.
D'image, fantasmes, d'image déchirée même à un moment. Il est présent aussi avec la musique, évidemment. Mm. Est-ce que ça a réveillé aussi? Est-ce que tu as écouté? Bon, c'est pas un livre, je voudrais préciser, parce que ceux qui ne l'ont pas lu encore peuvent imaginer que... C'est un livre qui tourne que autour de Mick Jagger ou de la musique non. des Rolling Stones. Et
ce n'est pas, vous ne saurez rien sur Mick Jagger de plus que vous ne savez déjà.
Il n'est pas venu au petit déjeuner, donc.
Ouais, voilà. C'est vrai que ça peut être un malentendu, c'est vrai.
Donc précisons-le, mais quand même, il y a la musique est là.
Bien sûr.
La musique est là, et donc ça réveille peut-être des choses aussi. Peut-être que tu as réécouté ou écouté des morceaux.
Un tout petit peu, pas tant que ça, puisque finalement j'ai écrit, curieusement, j'ai écrit. On va dire aller la moitié du livre, voire les trois quarts, sur la musique d'Alex Baupin, les chansons d'amour.
Oui,
j'ai écouté
qui
en
est dans
boucle. C'est un drôle de hasard. Et d'ailleurs, je le cite, oui, parce que vraiment, j'avais tellement ça dans les oreilles en écrivant ce Mick Jagger que c'est assez drôle. Oui, il y a un moment donné où effectivement, je commence un chapitre.
Je suis en train d'essayer de le trouver, mais Alex Baupin qui est... Un hôte de Manosque aussi.
Mais oui, c'est tout ça et ça fait des rencontres. Hein. C'est drôle parce que je ne le connaissais pas du tout.
Oui, donc c'est plutôt une autre musique que tu avais
voilà.
dans
Ceci
les oreilles.
Voilà, ceci dit, je me suis quand même... Oui, parce que moi, les Stones, en fait, j'avais leurs albums, mais sous forme de disques vinyles. Et donc là, j'étais bien embêtée parce que c'est vrai que j'ai eu envie de réécouter quelques chansons et j'avais effectivement donc, une ou deux compiles. Donc j'ai réécouté, j'ai eu grand plaisir parce que j'aime toujours beaucoup les Stones. Hein, c'est pas... Mais... Et puis, bon, les chansons comme ça viennent rythmer le texte, en effet, viennent répondre parfois, même si devant la tombe de ma mère, je n'avais pas du tout sympathie, For the Divine dans les oreilles, mais un air de Bowie, mais enfin bon, mais ça, c'est pas grave.
Ah, il y avait quand même de la musique.
Il y avait quand même de la musique, oui. Ouais. Qui parfois vient faire obstacle aux sentiments ou au contraire vient les accompagner. Enfin bon, c'est vrai que la musique, c'est bon, ben, pour tout le monde l'éprouve ça et le rencontre dans sa vie. C'est une expérience particulière.
Alors, on s'était rencontrés, je le disais tout à l'heure, avec ce livre Rue Jean Dolan, qui était ton deuxième roman. J'évoquais tout à l'heure le débat sur l'écriture en prison, mais ce qui m'a frappé, après avoir repris les autres livres, pas tous, hein, parce que je ne les avais pas tous avec moi à Manosque, j'ai retrouvé ça dans Petit Déjeuner avec Mick Jagger et même un peu dans Petit Éloge de la haine, c'est quelque part le thème de l'enfermement qui est très très souvent... très très souvent là, et qui a l'air d'éclater d'une certaine manière. Peut-être ça aussi, c'est quelque chose qui change. Comme si l'auteur, Nathalie Kuperman, avait trouvé une façon différente de sortir d'un enfermement ou de ce thème de l'enfermement. Est-ce que ça aussi, cette figure libre te...
Oui, peut-être que ça a aidé justement à faire un peu sauter les barrières. C'est vrai que dans tous les livres, hein, que ce soit même le premier d'une certaine façon, Rue Jean Dolan, ben, bien sûr, ça se passe en prison. Tu me trouves comment? C'est l'enfermement aussi dans une histoire d'adolescence. Dans Petit Déjeuner, d'ailleurs, avec Mick Jagger, ce qui est très différent par rapport justement à Tu me trouves comment, c'est que certes, il est question d'une jeune fille de 13 ans, mais c'est aussi un personnage qui se promène dans sa vie, puisqu'il y a quand même beaucoup de moments où est évoqué l'âge adulte, un âge un peu plus jeune, Il y a comme ça des va-et-vient,
oui,
une liberté de finalement se promener dans la vie du personnage en faisant des liens, en faisant des ponts, en faisant des... C'est comme un peu une danse, enfin, si je peux me permettre de dire ça, je l'ai un peu ressenti comme ça. Et oui, donc dans ce sens-là, l'enfermement de la jeune fille avec son poster et justement ce poster déchiré par la mère qu'elle veut absolument reconstruire, voilà, c'est un pulse. Et en même temps, elle reste pas dans sa chambre. Elle va visiter l'enfance. Elle se projette. Enfin, si on peut dire qu'elle se projette, parce que c'est pas elle qui se projette dans l'âge adulte, mais c'est le personnage se balade beaucoup plus et reste pas justement enfermé dans ses 13 ans. Donc, je te rejoins dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a une. C'est un enfermement qui prend... Bon, bah, ceci dit, le personnage est aussi enfermé à deux reprises de sa vie à Sainte-Anne. Une fois ado,
oui, quand même.
Une fois... c'est aussi une forme d'enfermement, j'imagine. Mais voilà, quoi, c'est...
Alors là, tu disais que tu ne savais pas où ni quand tu allais recommencer à écrire. Mais bon, il va y avoir sûrement des livres pour enfants entre-temps,
oui.
Ou des nouvelles. Mais est-ce que tu as... j'imagine que tu écris, même si rien de construit ne sort encore. Et justement, par rapport, puisqu'on parle de la musique et d'Alex Baupin, est-ce que ton écriture se nourrit parfois directement de la parole des autres à travers... des textes que tu peux entendre, pas seulement des choses que tu lis, parce que ça, je pense que les auteurs lisent beaucoup, souvent, donc on peut trouver de l'inspiration, mais aussi, puisqu'on parle beaucoup de cette nouvelle scène musicale où les chanteurs sont des chanteurs à texte, est-ce que ça te nourrit aussi, est-ce que ça te...
Malheureusement pas assez, parce que je vais très très peu au concert et que j'ai en ce moment en tout cas pas tellement le temps de faire de nouvelles rencontres musicales. Il se trouve que Chanson d'amour est tombée un petit peu là par hasard, je suis allée voir le film, oui. Je l'ai beaucoup aimé et je me suis procuré donc la BO du film et que j'aime beaucoup, ça c'est un côté un petit peu les choses en boucle, hein, c'est-à-dire que je suis capable d'écouter, je sais pas, 36 fois la même chanson. Alors je mets pas trop fort parce que j'ai très peur que les voisins se demande s'il n'y a pas un dysfonctionnement grave chez leur voisine du dessous. Mais voilà, ce qui me nourrissait beaucoup et j'ai très hâte de ce qui me donnait très très envie d'écrire, ce qui me nourrissait, c'était les spectacles de danse.
Oui, on y revient.
Quand j'ai découvert Anne-Thérèse de Kersmaeker, par exemple, il y a assez longtemps maintenant, hein, et notamment sa pièce Phase, que je suis allée voir deux fois, que j'ai vu aussi sur vidéo, etc. J'ai eu l'impression vraiment d'une. Ça m'a donné envie d'écrire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai découvert, malheureusement à la télévision, sur Arte, une certaine. Alors moi je connais pas grand chose, hein, Marie Chouinard, c'était une pièce, je sais plus comment ça s'appelle, et tout d'un coup c'est presque physique, ça me donne des bouffées d'envie de faire. La danse m'a beaucoup beaucoup
c'est lié au corps.
Alors voilà, c'est peut-être au mouvement, je suis aussi très très attirée par tout ce qui est répétitif.
Ouais.
Donc par exemple, alors là je reviens parce que j'ai découvert Steve Reich finalement grâce à Kersmaeker. Voilà, c'est je trouve ça fascinant. J'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais il y a quelque chose en effet du rythme répété, de peut-être d'une position du corps comme ça. On parle des autistes qui se balancent d'avant en arrière. Enfin, je sais pas, comme pour habiter quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est oui, ça. Bon, après, effectivement, je lis aussi des livres qui ça peut aussi donner des envies, bien sûr. Et justement, tout à l'heure, j'assistais à la lecture du livre de Maëlys de Kerangal. Et voilà, et ça a été un moment merveilleux où effectivement...
Corniche Kennedy
ouais. que je vais me précipiter, que je vais lire, et j'en ai entendu le début tout à l'heure, et ça a l'air... ça fait plaisir, ça remplit, ça donne envie. Heureusement qu'il y a des rencontres aussi comme ça qui nourrissent. Ouais.
Pour la musique répétitive, il y a, certes, il y a la répétition, mais il y a aussi de subtiles variations, de subtils mouvements qui se passent. Et, on parlait tout à l'heure de certains thèmes qui reviennent dans tes livres. Il y a évidemment toute
l'adolescence,
mais bon, toute comparaison gardée, il y a cet effet de répétition aussi de livre en livre, où là, les 9 petits déjeuners, bon, c'est aussi une répétition. Mais il y a à chaque fois quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, parfois imperceptiblement.
C'est vrai. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au travail et par rapport à m'autoriser à écrire quelque chose de nouveau. C'est que ce qui m'inquiète, c'est pas de trouver une histoire tout à fait nouvelle et originale. Je serais prête à réécrire, non pas un petit déjeuner avec Mick Jagger, mais avec je ne sais. Ça, je m'en fiche que l'histoire change. Mais donc, ça peut être répétitif. Ouais. Il faut juste, comme tu le dis, qu'on soit plus exactement au même endroit, qu'on soit plus justement dans une répétition qui ressasse. Voilà. Ouais. Il y a la répétition qui fait avancer par petites touches de changement comme ça, ce qui est effectivement le cas de la musique de Steve Reich et d'autres. Hein, mais ouais.
À l'air livre, Pascal Jourdana, Nathalie Kuperman.
J'ai déjà été tentée d'ailleurs de réécrire, je ne l'ai jamais fait parce que là c'était une expérience qui m'aurait pris beaucoup de temps et qui n'aurait malheureusement qu'aurait été sans doute très stérile parce que justement dans un procédé, etc. Oui. Mais j'avais envie de reprendre un livre, de réécrire la même histoire justement. Et voilà, avec non pas des virgules qui changent parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais de l'écrire autrement, de décliner, de faire des déclinaisons, des variations. Oui.
Il serait forcément différent,
forcément.
À distance.
Mais je vais essayer, voilà. Ah. Petit déjeuner avec, je ne sais pas, David Bowie. Non, je pense que là, ce serait un flop total.
Non, il faut prendre un livre plus ancien, peut-être. Petit déjeuner avec David Bowie, non, ça marcherait, hein, avec des amateurs. tu parlais aussi de la danse. Tout au début, quand tu as évoqué cet équilibre que tu as tenu justement entre la tenue, la retenue et la bride relâchée pour petit déjeuner avec Mick Jagger. Par rapport à la danse, là aussi, il y a une question d'équilibre, de numéro de funambule, peut-être un petit peu.
Oui, quand je parlais de l'impression d'être sur un fil, peut-être pas du rasoir, mais d'un fil où on pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, et où il n'est intéressant de basculer ni d'un côté ni de l'autre, mais de rester, par exemple, si je prends donc ce livre, Petit déjeuner. Basculer dans quelque chose qui aurait analysé l'enfance et le rapport du personnage avec et pourquoi donc Mick Jagger qui avait expliqué était du côté un petit peu émotionnel, psychologique, ça n'allait, enfin pour moi c'était tout ce que je voulais éviter et n'être que dans dans l'invention d'une histoire d'amour avec Mick Jagger, ça m'intéressait pas non plus. Il fallait donc vraiment rester comme ça au milieu pour que les choses aient du sens, pour moi en tout cas.
Et justement, est-ce que ça ne pouvait être que Mick Jagger par rapport à ça, puisque c'est à la fois un symbole d'une génération, et en même temps c'est un danseur, c'est quelqu'un qu'on a très souvent...
Qui gesticule.
Voilà, qui gesticule, décrit comme une bête de scène.
Bête de scène, oui. Oui, je pense que ça, c'est pas innocent non plus, le fait que... Justement, c'était aussi un peu une machine à fantasmes, que c'était vraiment le personnage tout à fait sur lequel il était tout à fait possible de projeter tout. Oui, c'est bon, ça j'en ai pas eu du tout conscience en l'écrivant, mais c'est quelques personnes qui comparaient finalement l'écriture avec les gestes avec de Mick Jagger. Ça m'a fait, pour moi c'était le plus grand compliment, bien évidemment non pas le talent de Mick Jagger, mais au moins ses gestes, c'est-à-dire quelque chose qui bouge, qui va, qui vient, qui repart, c'est vrai que moi je l'ai jamais vu sur scène en vrai, mais à la télévision, et c'est vrai qu'il est à un point, on n'a pas le temps de
il y a des membres en caoutchouc
voilà, et peut-être que Ça, c'était pas voulu, sans doute, mais en tout cas, si je peux avoir dans ce livre, quelque chose qui peut faire penser à cette gestuelle, mais c'est pour moi, c'est, je suis très très contente si c'est le cas, mais c'est pas à moi de te dire.
Mais est-ce que c'est finalement pas la meilleure réussite de l'écriture, d'arriver à évoquer à travers l'écriture, à travers le style, à travers la syntaxe, la phrase, le mouvement, ce qu'on cherche à décrire, et non pas justement, parce que là, Mick Jagger, il n'est pas décrit. Le seul moment où il est réellement décrit, c'est finalement quand cette photo, ce poster est déchiré, et il se retrouve avec un bout d'épaule à la place du nez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que finalement, la seule description du livre, c'est au moment où il n'est plus à sa place.
Mais il est décrit, comme tes amis te l'ont dit, ou certains lecteurs, à travers le style du livre, le mouvement du livre.
Oui, c'est pour moi, c'est ça, c'est exactement ça, écrire un livre. Et si ça s'est raté, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'aime bien aussi parler des autres, parce que du livre de Maïlys... Ouais.
De Kerangal.
Kerangal, merci. Je
pense que peu à peu, on va retenir
son nom. J'ai entendu. Vraiment. Non, mais en plus, je le connais, mais bon, bref. De ce que j'ai entendu d'elle tout à l'heure, quand elle lisait son livre, me paraît excellent. C'est ça, c'est ce qu'elle décrit et la façon dont elle le décrit. Il y a eu comme ça une espèce de. De rencontre entre l'écriture et le propos qui est rare finalement. Je dis pas que moi j'ai, mais en tout cas elle, je suis sûre qu'elle l'a réussi et c'est formidable.
Et c'est aussi un mouvement des corps. Là,
et c'est un mouvement des corps, ô combien, puisqu'il ne s'agit, je pense quasiment que de ça dans son. C'est pas le réduire que de dire qu'il ne s'agit que de ça, bien au contraire. Ça, c'est vrai que c'est une très très belle définition pour moi d'un livre qui peut finalement bouleverser, toucher sans qu'on sache exactement pourquoi. C'est parce qu'on l'a ressenti, c'est très physique. L'écriture, de toute façon, c'est très.
L'écriture c'est aussi, pourquoi tu le ressens de façon. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es fatigué, fatigué, mais.
Mais aussi quand je lis, quand je suis lectrice d'un livre, s'il n'y a pas quelque chose aussi qui passe par le physique, je peux trouver ça très intéressant, joli, l'histoire peut me plaire, mais il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu.
On n'est pas traversé par l'écriture, peut-être. Écoute, c'est une très belle façon de clore cette rencontre, provisoirement, parce qu'on aura sûrement d'autres occasions de se voir très bientôt, de toute façon. Merci beaucoup, Nathalie, et puis bonne fin de séjour à Manosque.
Merci.
Voilà, cette émission à l'air libre avec Nathalie Kuperman s'achève. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des livres publiés par Nathalie Kuperman sur le site de Radio Grenouille, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, et d'autres. Radio Grenouille, le site c'est www.grenouille888.org. Vous pouvez également y retrouver cet enregistrement, le son de cette rencontre, que vous pouvez réécouter ou podcaster ou envoyer à vos amis. Nathalie Kuperman, vous pouvez également la retrouver dans la région PACA ces prochains jours, par exemple à Moinsartou, entre Cannes et Grasse, le 4 et 5 octobre, et puis à la manifestation Les Littorales, qui se tiendra à Marseille les 10, 11 et 12 octobre, à l'occasion de Lire en Fête, sur le cours d'Estiendorf à Marseille. Par exemple, le samedi 11 octobre, pour une rencontre lecture musicale avec Claire Fercac et Arnaud Bertina. Donc Nathalie Kuperman y sera également au café Le Pêle-Mêle, 8 Place aux Huiles, dans le 1er arrondissement. Et puis pour le comptoir littéraire que j'aurai le plaisir d'animer avec différents écrivains, dont Nathalie Kuperman, le dimanche 12 octobre, avec une thématique autour de l'adolescence. Voilà, cette émission se termine. Merci de votre écoute. Au mois prochain, tous les mercredis, premier mercredi de chaque mois. Donc, désormais, c'est le nouveau rendez-vous d'Aller Livre. Rendez-vous donc premier mercredi du mois de novembre. À bientôt.
alma, la luz de tu cara.